tout de suite aux questions. Simplement, on a un micro-baladeur qu'on va peut-être prendre. Veuillez, s'il vous plaît, utiliser le micro parce qu'on enregistre, alors ça nous serait très utile. Vous pouvez poser les questions à l'un ou l'autre comme vous souhaitez.
Ouais, tout d'abord, madame, je vous remercie pour votre intervention. J'aimerais des précisions sur, en fait, de mon point de vue, moi je suis très heureux de ce qui arrive aux banquiers suisses. Ils ont fait la fête pendant très longtemps. Ils sont en train de se casser la gueule. Pour moi, c'est très bien. Vous donnez l'impression un petit peu de les défendre.
Oui,
est-ce que
oui,
vous portez
oui,
un, point vue, oui. un point de vue plus éthique un peu sur cette affaire ou, parce que votre intervention est assez technique, mais on n'arrive pas à déceler si, au fond, vous trouvez ça déplorable que les banques suisses aillent moins bien.
Oui, je comprends très bien votre point de vue. Effectivement, je peux sembler être en train de défendre la place financière suisse. Mais d'abord, je ne suis pas payée par les banquiers. J'ai la chance de m'exprimer en toute indépendance et le livre d'avant qui condamnait l'UBS le prouve. Je vais vous dire une chose. Moi, je trouve que la meilleure chose à faire, c'est d'éradiquer l'évasion fiscale. Mais il faut que tout le monde le fasse. Ça ne va pas de demander à un seul pays de le faire et que d'autres continuent à s'engraisser sur ce marché. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Vous voyez, ça n'a rien de moral, j'ai pu le constater, je me suis posé la question, mais je vois que ce sont les principaux concurrents de la Suisse qui l'ont attaqué et récupéré son marché, ça ne me convient pas. Ça pour moi, ce n'est pas l'équité internationale. Je suis contre l'évasion fiscale, mais au niveau global. Ça ne peut pas se faire de cette façon-là. Je veux dire, qu'un seul pays soit sacrifié pour l'intérêt d'autres, vous voyez, ça ne porte aucun message positif pour moi. Ça, c'est... Est-ce que l'évasion fiscale va s'arrêter? Pas du tout. Bon, alors à quoi tout ça a servi?
Ça fait partie du capitalisme, les gros poissons mangent les plus petits.
Alors pour vous, là, maintenant, tout d'un coup, pour vous, le capitalisme, c'est quelque chose qu'on accepte avec ces injustices et...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, c'est eux qui nous font la démonstration que leur système fonctionne. Il fonctionne comme ça, le capitalisme. Donc moi, je ne dis pas que c'est bien, mais ils se bouffent entre eux. Et puis, plus petits finissent par mourir.
Très bien.
Et c'est tant pis pour eux.
Mais alors moi, je dis, assumons que la Suisse, elle ait perdu cette bataille-là, qu'elle va quand même en payer le prix. Oui, je pense que la rue du Rhône ne sera pas la même que ce qu'elle a été, ni les hôtels de Genève ces dernières années. Ça, c'est évident. Assumons que nous, on a perdu du terrain comme ça, qu'on ne sera plus les premiers sur ce marché. Disons haut et fort et avec beaucoup de morale et armé d'une grande morale, on ne mange pas de ce pain-là. De toute façon, le secret bancaire, on n'en voulait pas. Bravo, c'est super. Mais assumons aussi que d'autres nous ont bien eu, qu'ils vont gagner à nos dépens et que c'est un monde qui est... je peux même parler de corruption à propos de la façon dont ça s'est fait. Donc, assumons ça entièrement, c'est tout ce que je dis. Ne commençons pas à dire, oui, nous, les Suisses, c'était bel et bien notre choix, c'est nous qui avons choisi de sacrifier le secret bancaire parce qu'on ne mange pas de ce pain-là et ce n'est pas notre philosophie. Ce n'est pas le cas. La Suisse était prête à continuer à le faire, elle s'est fait sortir de ce marché. Ça, c'est la réalité et je trouve que c'est... On n'a même pas commencé la guerre contre l'évasion fiscale aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Le marché gris est en train d'augmenter. L'offre d'évasion, l'offre d'anonymat est en train de pulluler partout, dans les centres offshore, sur Internet, etc. Et donc là, sur ce plan-là, on n'a rien gagné du tout. Hein. On n'est même pas au début. Voilà.
Ce serait intéressant, avant la question suivante, de demander à Sébastien Guay sa réaction. Je crois que...
L'argument de « je ne le partage pas » de Mme Zaki pour les trois raisons suivantes. D'abord, cet argument est très ancien. L'argument selon lequel, au fond, il revient à dire « je suis contre l'évasion fiscale, mais il faut que ce soit les autres qui commencent ».
Pas qui commence, qui accompagne.
Ou qui accompagne la chose. Donc, moi, je dis, commençons peut-être par la Suisse. Je vais essayer d'expliquer les choses comme ça. C'est un argument très, très ancien. c'est exactement l'argument. Vous vous souvenez que je vous ai cité ce ministre des Finances de 1920 dans ce débat au Conseil national, où les socialistes et les représentants de la paysannerie suisse demandent la levée du secret bancaire. Et la réponse du ministre des Finances suisse, le fameux Jean-Marie Musy, est exactement le même que le vôtre. C'est-à-dire qu'il dit le problème, c'est que nous ne pouvons pas le faire avant que les autres aient, eux, supprimé le secret bancaire. Sinon, nous allons perdre, c'est pour ça que j'ai donné cette citation, des milliards franchiraient immédiatement la frontière et iraient dans les autres, en termes modernes, nous perdrions le marché de la fraude fiscale. Donc c'est un argument, disons, qui a un siècle à peu près. Mais bien évidemment, c'est un argument ad hoc, puisque jamais, ensuite, quand il était question, par exemple, une année plus tard ou deux ans plus tard, au sein de ce fameux comité fiscal de la Société des Nations, où là, les Belges, les Français plaidaient pour un accord multilatéral sur l'échange d'informations, le même Musy disait « Ah non, pas question de faire un accord ensemble, là nous sommes totalement contre ». Donc double langage. On ne peut pas d'un côté, comme le fait le Conseil fédéral ou comme le fait Mme Zaki, dire « Ok, moi je suis contre la fraude fiscale à condition que les autres luttent aussi contre la fraude fiscale ». Et de l'autre côté, quand il y a des démarches internationales contre la fraude fiscale...
Est-ce que les Anglais avaient accepté cet accord multilatéral ? Les concurrents, est-ce qu'ils avaient accepté ? Non, mais racontez l'histoire de façon complète, s'il vous plaît.
D'accord. Donc, les Anglais, effectivement, ont appuyé les Suisses dans cette démarche, ce qui fait que cette démarche a été
Merci.
Bloquée. Si les Suisses avaient, à ce moment-là, pris position en faveur de cet échange automatique d'informations, peut-être que cet objectif de faire des conventions de double imposition avec l'échange automatique d'informations serait passé. Ça n'a pas été la position de la Suisse. Et au même moment, le même Musy disait à l'intérieur du pays, il faut attendre, ou disant, nous ne pouvons pas être ceux qui commençons par lutter la fraude fiscale. Donc, il y a un double langage, et évidemment, il y a un double langage systématique, puisque sur d'autres aspects, évidemment, les mêmes milieux s'empêchent pas de donner des leçons à l'ensemble du monde, par exemple, en matière de politique humanitaire, etc. Donc, ça, c'est un premier élément, disons, qui ne me convainc pas dans cette démonstration. Et, disons, cet argument ne me convainc pas. Moi, je suis un des fondateurs du Tax Justice Network. Donc, moi, on ne peut pas me reprocher de lutter contre le paradis fiscal suisse. Je suis absolument opposé à l'ensemble des paradis fiscaux du monde entier et à la fraude fiscale, parce que fondamentalement, ceux qui payent la note, ce sont les salariés dans les pays économiquement développés et les pauvres. Mais alors, soyez conséquente, si vous êtes vraiment opposé à la fraude fiscale du point de vue international, comme vous le dites, alors adhérez à Tax Justice Network, faites des campagnes, vous avez une source privilégiée d'informations, donc dénoncez de manière générale et la fraude fiscale en Suisse, et la fraude fiscale, je suis tout à fait d'accord avec vous, à Jersey, au Delaware ou dans d'autres pays. Mais alors, faites-le tout à fait sérieusement.
D'accord, mais j'aimerais savoir que fait Tax Justice Network aujourd'hui pour combattre cette évasion fiscale internationale.
Les dernières choses que Tax Justice Network fait, à part un travail d'informations extrêmement intéressant, puisque vous vous référez vous-même aux estimations.
Oui, alors l'information, tout à fait.
Alors, l'information, tout à fait, c'est déjà quelque chose qui est extrêmement important. L'information, c'est-à-dire donner des estimations sur l'ampleur de la fraude fiscale, donner des exemples concrets par exemple, la fraude fiscale qui se fait massive à travers les prix de transfert, et ça, Tax Justice le fait, publier un certain nombre de livres dont certains des membres de Tax Justice Network, je vous recommande vivement de lire le dernier livre qui a été publié sous son égide, qui s'appelle Tax Havens, qui est un excellent livre de dénonciation des paradis fiscaux, non seulement suisses, mais bien évidemment de l'ensemble des paradis fiscaux. Et il y en a une bonne dizaine ou une bonne douzaine, parce que, disons, on ne peut pas compter les Bermudes. Les Bermudes, si, disons, c'est une succursale, comme Monaco est une succursale de la France, les Bermudes sont une succursale des États-Unis, etc. Donc, ce qu'il faut dénoncer, c'est les grandes puissances. Et Tax Justice Network le fait. Et Tax Justice Network se contente pas de faire ça, essaye de mobiliser. Par exemple, une des mobilisations auxquelles j'ai participé de loin, c'était une idée de faire une chaîne humaine de dénonciation de Jersey, en faisant une chaîne humaine entourant la petite city, si on peut l'appeler comme ça, donc les banques et les fiduciaires, etc., à Jersey même. Et disons, ça a eu un certain impact ou un certain écho dans les médias anglo-saxons.
Oui.
J'aimerais quand même redire... Dans le cadre de la Suisse, ce sont ces concurrents anglo-saxons qui étaient les plus forts que Tax Justice Network pour abolir le secret bancaire suisse. Comment Tax Justice Network compte vraiment s'attaquer à des puissantes juridictions comme celle-là? Et comment ça se fait-il qu'il n'y a pas eu de progrès tout ce temps-là?
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous qu'il n'y a eu aucun progrès. Encore une fois, il y a un certain nombre d'informations, il y a un certain nombre, et il va devenir évidemment difficile, y compris à des pays qui attaquent ou des autorités qui attaquent le secret bancaire suisse, c'est évidemment aussi plus difficile pour elles de justifier leur propre juridiction interne. Mais il y a un autre aspect sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous. Vous partez, et ça me semble une erreur de raisonnement classique, vous partez de l'idée que ce marché, comme vous l'appelez, ce marché de la fraude fiscale...
Et c'est un marché. Perdons nos complexes, c'est un marché.
Ce que je vous
dans
propose,
le point de vue des anglo-saxons, c'est un marché.
Ce que je vous propose, c'est juste de passer à la question suivante. Ça va faire avancer encore, parce que... On laisse finir.
D'accord, alors
ça
on
pouvait
laisse...
Avant, ouais. Je crois qu'elle était dans... Bon, mais on y va, encore juste un petit coup. Mais ça vaut la peine de faire avancer le débat après avec la question suivante. D'accord.
Donc, si je peux juste terminer sur cette question. L'idée que c'est un marché, je ne conteste pas du tout que ce soit un marché, je conteste l'idée que ce marché profite à l'ensemble de la population. Réfléchissons deux secondes à ce qui s'est passé avec UBS. Les banques suisses misent depuis des décennies, je l'ai expliqué, sur la gestion de fortune. Logiquement, ça les amène aussi à miser massivement ce qu'on appelle sur la banque d'affaires, puisque les deux sont intrinsèquement liés. On voit les résultats que ça a donné dans le cas de UBS, c'est-à-dire une débâcle financière.
Et on est totalement donc, d'accord.
Une débâcle financière, donc... Une partie des salariés, ou disons des contribuables, vont porter les conséquences de cette débâcle financière. Donc, disons, la défense du secret bancaire et la défense de ce marché de la fraude fiscale, non seulement ça vide les caisses de l'État, donc ça fait que vous avez des politiques d'austérité, donc ça veut dire qu'il y a ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire une grande offensive. On sait que la fraude fiscale, par exemple, est massive en Grèce, et c'est les salariés grecs qui vont la payer, donc... De ce côté, les salariés payent, et ils payent aussi parce que ça crée des crises financières désastreuses dont les effets à moyen terme ne sont pas encore connus, mais qui se transforment en crise économique pour l'ensemble des
salariés. Mais on est totalement d'accord, Sébastien.
Ça, c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous. C'est un désastre.
Personne n'a dit que c'était bénéfique. Mais je dis juste que c'est complètement faux de dire que pour Genève, ça ne fera aucun impact sur le paysage genevois. Ça, dans l'économie genevoise, c'est quand même très important, là, le business offshore, comme on l'appelle. Ça, perdons n'essayons pas de dire que ça ne va rien changer, etc. Soyons réalistes. Mais là, Genève va certainement réussir à se convertir dans d'autres métiers. Il n'y a pas de problème. Par contre, moi, ce que je dis, ce n'est pas différent de vous. Je dis que la secret bancaire a protégé certaines fortunes. Mais les trusts et les entités que les anglo-saxons défendent protègent les plus grandes fortunes du monde. Et là, je ne sais pas si on est d'accord, mais ça, les plus grands, les multimilliardaires vont dans ces structures-là. Et plus ces multimilliardaires ne payent pas d'impôts, plus la classe moyenne compense à leur place. Et ce fardeau-là, il retombe sur nous. Et ça, c'est ce qui est la plus grande, en fait, la plus grande injustice qu'il faut absolument corriger. C'est ce marché offshore extrêmement puissant de patrimoine immense, organisé dans des structures extrêmement coûteuses, qui fait que le marché de l'évasion fiscale est monté en gamme. La barrière est montée plus haut. Et aujourd'hui, c'est tout simplement devenu un produit de luxe. Seuls les plus riches peuvent évader le fisc et les autres doivent payer des impôts pour compenser tout cet argent qui ne rentre pas dans les caisses des États. Vous voyez, il faut juste voir ça de façon plus globale que la Suisse. C'est tout ce que je dis.
Alors, la question suivante, qui va peut-être encore faire avancer le débat, que je trouve fort intéressant, pas de problème.
Bonsoir. Je voulais demander s'il y a des chiffres sur justement les implantations, les arrivées de sociétés multinationales, transnationales. Et, il me semble, en tout cas, comme ça, de manière empirique, on peut constater que leur nombre augmente depuis une dizaine d'années, en tout cas sur tout l'arc lémanique. Et je voulais que aussi Sébastien peut-être peut expliquer un peu mieux en quoi cette procédure d'arbitrage avec cette commission tripartite sur les prix de transfert constitue un avantage ou un désavantage pour ces sociétés.
Donc, comme je suis interpellé directement, je peux. Alors, sur les chiffres des sièges de multinationales qui s'implantent, je n'en ai pas. Disons, dans un rapport du Conseil fédéral consacré à la compétitivité fiscale de la Suisse qui date de 2005, si je m'en rappelle, il est dit que la compétitivité fiscale, mais ça ne surprendra personne, de la Suisse est tout à fait exemplaire. Parce que Mme Zaki donc, a montré les taux d'imposition moyens en Europe, mais si vous prenez le taux d'imposition moyen en Suisse, et en particulier le taux d'imposition pour les entreprises, il y a un différentiel très important entre les pays de l'OCDE, l'Europe, en particulier l'Union européenne et la Suisse. Donc c'est très attirant pour des sociétés étrangères de s'installer en Suisse. Et récemment, vous avez une grande société allemande, je me rappelle plus son nom, anglaise, excusez-moi, je me rappelle plus son nom, je crois que c'est le numéro 3 dans les matériaux composites, si je ne me trompe pas, qui vient de décider en disant publiquement, et ça c'était assez intéressant, qu'elle s'installait son siège en Suisse pour économiser des impôts. Elle a même donné le chiffre d'économie d'impôts. Alors il faut toujours se rendre compte qu'en partie derrière ça, c'était des opérations propagandistes qui visent à obtenir du gouvernement anglais à la veille des élections, où on sait que c'est probablement les conservateurs qui vont gagner, pour que les conservateurs baissent les impôts, mettent ça à leur agenda politique, et donc obtenir une baisse d'impôts en Grande-Bretagne même. Mais disons, du point de vue de la compétitivité fiscale de la Suisse, je crois qu'il n'y a aucune.
Mais faut-il peut-être préciser que l'Union européenne a attaqué le statut des holdings suisses et des sociétés auxiliaires, et la Suisse a dû revenir en arrière et rendre ces statuts moins attrayants fiscalement. C'était dans les dernières années, et puis ces pressions vont se poursuivre ces prochaines années.
Autrement, sur les prix, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation de Mme Zaki, de nouveau, en disant, pour le moment, la Suisse n'a fait aucune concession, strictement aucune concession. C'est en cours, les négociations sur ce fameux statut sur les holdings, pour une raison simple, et c'est aussi une des choses que les Suisses répondent systématiquement. C'est, nous avons un système fédéraliste, c'est les cantons qui imposent les holdings. Donc, nous devons avoir un accord entre les cantons. Et généralement, les Suisses ont là une arme très forte vis-à-vis des autorités étrangères en disant, oui, mais vous voyez, c'est extrêmement difficile parce qu'on doit obtenir un accord qui va depuis Schwyz jusqu'à Genève. Et puis, c'est très difficile de mettre d'accord les Schwyzois avec les Genevois parce qu'ils ne s'aiment pas beaucoup, etc. Puis, si les Schwyzois font une concession à les Genevois, etc. Bref, les Suisses répètent à l'échelle, disons, de ce minuscule pays, mais de cette grande puissance économique, contrairement à ce que Mme Zaki, et qui a des armes tout à fait importantes pour se défendre, c'est pas du tout le David vis-à-vis du Goliath. Donc les Suisses répètent vis-à-vis de l'étranger ce que, disons, la compétition fiscale entre eux, de manière à pouvoir ensuite justifier de ne pas faire d'accords internationaux. Donc on a un système, disons, assez complexe de ce point de vue-là. Sur les prix de transfert, c'est assez simple à comprendre. Les prix de transfert, c'est Tax Justice Network, on a montré de nombreux exemples. Vous pouvez aussi lire les travaux de Ronan Pallen, un spécialiste de Sheffield, de l'université de Sheffield, l'Université de Sheffield peut se payer le luxe d'avoir un prof qui est uniquement consacré à l'histoire des paradis fiscaux, bien, je crois que c'est une des rares universités en Europe qui peut se le permettre. Et donc, disons, les prix de transfert fonctionnent de la manière suivante. Bien, une multinationale quelconque, ça peut être une multinationale détenue par des capitaux étrangers ou une multinationale suisse, a son siège en Suisse. Et elle a un certain nombre de filiales, souvent des dizaines, voire même des centaines de filiales, succursales, etc., dans d'autres pays. Bien. Et alors, elle va, disons, établir des prix, c'est-à-dire dans l'endroit où c'est le plus intéressant du point de vue fiscal. Probablement la Suisse, puisque les impôts sur les bénéfices en Suisse sont moins imposés.
Oui, mais il y a aussi l'Irlande, l'Islande, la Hollande. Enfin, il faut préciser qu'il y a plein d'autres endroits par lesquels on passe pour les prix de transfert.
On est tout à fait d'accord, Madame Zaki. Encore une fois, mon point de départ, ce n'est pas de m'opposer au paradis fiscal suisse. Je suis tout à fait ou tout autant critique de tous les paradis fiscaux du monde entier. Si j'étais irlandais, je travaillerais sur la fraude fiscale en Irlande et j'écrirais des articles dénonçant la fraude fiscale en Irlande et montrant comment l'Irlande et la bourgeoisie irlandaise essayent de gagner le marché de la fraude fiscale internationale. Je le ferais exactement de la même manière que si je le fais actuellement. Il se trouve que, heureusement ou malheureusement, je suis suisse, bon vaudois, et que je travaille ici à l'université avec les archives suisses, etc. C'est pour
oui,
ça
oui,
que
oui, j'en je suis fais. Bien mais, conscient.
Voilà, j'essaye donc de travailler sur ce paradis fiscal suisse, parce que, d'une certaine manière, en comprenant le paradis fiscal suisse, vous comprenez aussi les paradis fiscaux irlandais, américains, etc., parce que les mécanismes et les raisons pour lesquelles les capitalistes essayent de frauder le fisc sont les mêmes à travers le monde entier. Donc, disons, ça, c'est mon point de vue. Encore une fois, j'ai un point de vue, si vous me permettez d'utiliser ce terme qu'on n'entend pas souvent en Suisse, un point de vue internationaliste. Bien, donc, je suis pour le combat internationaliste contre la fraude fiscale. Et une des choses que je dénonce de manière générale, par exemple, dans les conférences que je fais, c'est par exemple la passivité des organisations censées lutter contre la fraude fiscale en Suisse. Je désigne par là clairement, par exemple, le Parti socialiste, qui, à mon avis, est en dessous de tout dans cette affaire, mais également, quand j'ai l'occasion de participer à une conférence comme récemment à Florence, de dénoncer la passivité du Parti démocrate italien vis-à-vis de l'amnistie fiscale que le gouvernement Berlusconi, qui est un vrai scandale, que le gouvernement Berlusconi a fait récemment. Donc, j'essaye, disons, de lutter avec mes tout petits bras et mes tout petits moyens contre la fraude fiscale internationale. Voilà, c'est simplement ça que je fais. Est-ce que je peux continuer sur les prix de transfert ?
Merci. Mirette Zaki, peut-être juste en réponse avant la question suivante. Si vous aviez... il avait quelque chose... Désolé. Il y avait quelque chose. Ah oui, il y avait encore le transfert, pardon.
Donc le mécanisme est assez simple. Dans l'endroit où c'est le plus avantageux fiscalement de déclarer les impôts, la société établie là, par exemple la Zug, va facturer des prestations à ses filiales qui sont, disons, très au-dessus des prix normaux, si vous voulez. Disons, 5 fois le prix normal, ce qui fait que les bénéfices de la filiale installée dans un pays où les impôts sur le bénéfice sont élevés, ben, ces bénéfices-là vont diminuer, vont être moins importants, puisqu'une partie de ces bénéfices vont être transférés en Suisse où le niveau d'imposition est plus bas. C'est comme ça que les multinationales fraudent massivement ou évadent, pour utiliser le terme technique, évadent massivement le fisc. Un dernier chiffre, il faut savoir qu'environ 50% du commerce international est intra-multinational. Intra-multinational, mesdames et messieurs. Ce n'est pas entre différentes entreprises, c'est entre les différentes succursales des mêmes entreprises, des mêmes multinationales. Donc ça vous donne une petite idée de l'ampleur de la marge de manœuvre fantastique d'évader le fisc à travers les prix de transfert. Et ça, c'est évidemment donc décisif du point de vue du capitalisme suisse d'avoir obtenu que maintenant ces prix de transfert soient négociés avec les États-Unis et ne soient plus imposés par le fisc américain. Merci. Et ça vous donne une toute petite image que la Suisse n'est pas David vis-à-vis de Goliath américain, mais disons
je peux pas
un solide rock par rapport...
Je ne peux pas être d'accord avec ça, je suis désolée. C'est, on a vu nous-mêmes comment les États-Unis ont réussi à faire plier la Suisse dans la transmission des 4500 noms. On peut très bien imaginer que lors de ces arbitrages, le fisc américain réussira évidemment à faire plier la Suisse sur des affaires de prix de transfert. C'est d'ailleurs ce que attend Xavier Auberçon qui a parlé d'un durcissement très net du fisc américain dans les opérations de prix de transfert vis-à-vis de ses propres multinationales. Et donc le fisc américain ira très loin pour redresser des prix à leur juste valeur lorsqu'il le souhaitera. Suisse ou pas, accord ou pas, ça c'est des pressions, c'est politique.
Merci bien. Il y avait une question encore ici.
C'est une question, remarque par rapport à Madame Zaki. Est-ce que vous ne pensez pas que la finance, dans les conditions actuelles, revêt un rôle de plus en plus parasitaire, au vu de ce qu'on voit, notamment au niveau européen aujourd'hui, c'est assez clair. Et y compris sous la forme que vous indiquez, c'est-à-dire les problèmes de fiscalité, d'avoir optimisation fiscale, etc. Deuxième chose, il est clair que dans la globalisation actuellement, les classes dominantes sont en lutte entre elles, très dures, pour capter le profit.
Absolument.
D'accord. Et il est évident qu'actuellement, quand il y a un problème, par exemple, lorsque vous dites... Il s'engraisse sur le dos des Suisses.
Oui.
Ça pose, me semble-t-il, un problème parce que, disons, nous n'avons pas, nous, à nous identifier à notre classe dominante qui est parfaitement insérée dans ce marché financier mondial.
Oui.
Et qui, bien évidemment, ce marché exerce une pression sur les conditions de vie de toutes les populations actuellement. Mm-hmm. Et c'est la raison pour laquelle... je voudrais vous poser une question au final. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain nombre d'avantages en Suisse à voir, disons, le nombre de sociétés qui viennent s'y installer, établir leur siège, faire du négoce, disons, sur
négoce la... international
négoce
de matières premières
à Genève, s'établir à Zoug, etc. Est-ce qu'il n'y a pas... disons, de ce point de vue-là, une compétitivité de la bourgeoisie suisse, je dis bien de la bourgeoisie suisse, ce qui signifie évidemment que ceci ne répond pas à nos intérêts à nous comme à ceux des travailleurs et des populations dans le monde entier.
Oui, alors je comprends votre point de vue. Je suis totalement d'accord avec le fait que ce sont ces classes ultra riches qui ne payent pas d'impôts, qui nous parasitent, qui parasitent la classe moyenne, à mon avis, plus que les personnes invalides, soi-disant, ou au chômage, ou qui n'arrivent pas à s'insérer dans la société. Les vrais parasites, pour moi, ce sont ces classes de revenus supérieurs qui payent quasiment pas d'impôts aujourd'hui, simplement parce qu'ils peuvent s'acheter un permis d'évader le fisc. Donc ça, je l'ai écrit, c'est exactement ce que je pense, là je vous rejoins totalement. Par rapport au fait que le secret bancaire, en fait, ça, ici, c'était le fait d'une classe dominante et que ça s'était déconnecté des classes plus modestes en Suisse et que ça ne profitait pas à l'économie suisse, je suis plus partagée. Oui, bien sûr que ce sont les gestionnaires de fortune de Genève qui gagnaient des bonus de 200 000 à 500 000 francs par année parce qu'ils géraient des fortunes non déclarées. Bien sûr que c'est ceux-là qui allaient acheter des montres de luxe, des automobiles et des villas de luxe dans le canton et ce ne sont pas les ouvriers et les classes plus modestes. Mais est-ce que les Suisses, s'ils avaient été consultés démocratiquement, est-ce qu'ils auraient eux-mêmes aboli le secret bancaire? Si ça avait été le cas, moi j'aurais un respect total pour ça et j'aurais aussi voté pour abolir le secret bancaire. Mais on n'en a pas eu la possibilité. C'est ça qui est un petit peu regrettable. C'est... pour le maintenir. Mais aujourd'hui, les sondages sont... Voilà. Ben, merci de le rappeler. Je n'avais pas en tête ces chiffres-là. Aujourd'hui, on a des sondages.
C'était une initiative parlementaire qui avait été lancée dans les années 70.
C'est intéressant. En plus, voilà. C'est très intéressant. Ça serait intéressant de savoir aujourd'hui quelle part de la population le soutient vraiment, parce qu'on ne croit pas tellement au sondage. Hein. Parfois, le sondage des banquiers, par exemple, qui maintient qu'il y a, je ne sais plus, 60% de Suisses qui sont pour le secret bancaire, je ne sais pas, franchement. Mais en tout cas, on n'a pas été consulté. C'est ça qui est vraiment dommage. Après, vous parlez d'autres secteurs. On n'a pas été consulté aujourd'hui, avant les signatures de CDI, etc. Je veux dire. Vous parlez des secteurs comme le négoce international et toutes ces sociétés qui viennent de Londres s'installer ici. Et vous dites que là, de nouveau, c'est une élite qui ne nous, qui profite pas à notre économie. C'est bien ça ce que vous dites, hein, qu'on n'a pas tellement à les encourager parce qu'ils n'amènent pas vraiment de valeur ajoutée ici, c'est ça? Pour nous, pour le citoyen moyen, c'est ce que vous dites?
Non, je veux dire que, disons, aussi pour rectifier un petit peu l'interprétation que vous avez faite de ma première question, je pense que, disons, tout cet argent qui circule et tout cet argent des multinationales qui cherchent à échapper au fisc, qui viennent établir leur siège en Suisse parce qu'elles y trouvent sans aucun doute des avantages du point de vue de leur rentabilité, je dis que l'ensemble de ces marchés financiers constitue pour nous actuellement un étau qui se resserre, qui exerce une pression de plus en plus forte pour se rentabiliser et qui est destructrice des conditions de vie des populations. Oui. Disons, c'est ça le sens. Mais ma question plus précise, oui, consistait à dire, à vous demander, disons, quels sont les avantages, quelles sont les raisons qui font que ces sociétés viennent s'établir en Suisse? Est-ce que cet aspect fiscal est un aspect important?
Bien
et
sûr.
C'est évident que, disons, il s'inscrit.
C'est évident. Ces sociétés viennent s'établir ici parce que la fiscalité pour les holdings est évidemment attrayante en comparaison européenne. Et ils créent des emplois. Donc, est-ce que le fait qu'ils créent des emplois, ça les rend intéressant pour la population ou pas? Oui, c'est quand même le cas. Il y a aussi beaucoup de centres administratifs. Et dans le canton de Zoug, on trouve des boîtes aux lettres qui ne nous servent absolument à rien. Et je comprends que vous ayez l'image que c'est un secteur qui est, dans le fond, qui crée beaucoup de spéculation. Je pense que c'est à ça que vous vous référez, qui crée beaucoup de déstabilisation dans le monde. Aujourd'hui, on le voit très bien. Et je suis d'accord avec vous. Peut-être que la Suisse pourrait ne pas forcément encourager la venue, par exemple, des hedge funds ici. C'est des fonds spéculatifs. C'est une activité qui a détruit énormément de valeur. Le secteur de la banque d'affaires, si vous voulez, il est quand même beaucoup plus à New York qu'à Londres qu'à Genève. Genève et Zurich, c'est beaucoup plus de la gestion de fortune et de la banque de guichet encore, et de la banque commerciale, si vous voulez. Mais les activités vraiment spéculatives et vraiment destructrices de valeur sont concentrées dans trois parties, c'est New York, Londres et Hong Kong. Et évidemment, nous, on peut dire qu'on n'en veut vraiment aucune trace et qu'on ne veut pas que des gens viennent ici parasiter notre régime fiscal attrayant et rejeter tout ça. Mais vous voyez que les autorités, elles favorisent la venue de ces holdings pour les emplois qu'elles créent, la consommation qu'elles amènent, les forfaits fiscaux pour les mêmes raisons, parce que c'est des gens qui résident ici qui amènent un certain revenu. Et les autorités raisonnent que sans ça, on n'aurait pas ce revenu, mais avec ça, je veux dire, on ne perdrait rien, on ne perd rien à les avoir. Parce que si elles ne sont pas là, ce revenu irait ailleurs et que nous, on n'a qu'à y gagner. Voilà. Alors là, vous vous placez sur un plan moral de dire leurs activités ne sont pas des activités qu'on a envie d'encourager. Bah, très bien. C'est une position qu'on peut respecter.
Je passe à la question suivante.
Merci. Oui,